soir, on est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture, bien sûr, mais aussi sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux pour ajouter votre voix au débat. Hashtag et après. Ce n'est pas un chiffre exact, c'est une tendance. 8250 personnes ont été signalées aux autorités comme radicalisées dans les derniers mois, séduites par les discours de Daesh, selon une note de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste détaillée mercredi par le Figaro. Un chiffre qui peut faire peur puisqu'il semble attester d'un phénomène en rapide progression, mais qu'il faut 1. Nuancer, 2. Éclairer, 3. Interpréter. Prévenir plutôt que guérir, pourquoi ce retard français? Qui sont les nouveaux aspirants au djihad? Famille, école, internet, prison, quels sont aujourd'hui les lieux de l'endoctrinement? Lutte-t-on de la même manière contre la radicalisation et pour la déradicalisation? Invité ce soir pour en parler, des acteurs discrets de ces questions et observateurs assidus, la sociologue Wiza Kies, tout d'abord bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez sur les processus de radicalisation religieuse en prison. Vous dirigez le cabinet de conseil Sociologics, rattaché au CADIS et à l'EHESS. Et vous avez également pratiqué, vous faites encore des ateliers de déradicalisation, comme on dit, recherche-action dans des prisons en région parisienne. Bernard Godard est à nos côtés. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien des renseignements généraux, un spécialiste de l'islam, chargé de mission jusqu'à très récemment du bureau des cultes du ministère de l'Intérieur, auteur de La question musulmane en France, un ouvrage qui est paru en février dernier chez Fayard. Et avec nous par téléphone, il y a le politologue Azim El Difraoui. Bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste du monde arabe et du djihadisme, auteur de Al-Qaïda par l'image, la prophétie du martyr, mais également de Carnet égyptien, tous deux parus au PUF. À noter qu'en deuxième partie d'émission, la journaliste Flore Vasseur nous rejoindra pour nous présenter son documentaire bientôt diffusé sur Arte, qui relate une initiative colombienne de déradicalisation par l'image, la publicité comme arme de paix dans la guerre que mène Bogota contre les FARC depuis 50 ans. Cette expérience est-elle exportable et efficace contre deux forces d'autres formes de radicalité? Suivez mon regard, ce sera avant 19h et tout de suite c'est dimanche et après.
Dimanche et après. Olivia Jesper.
4015 personnes signalées comme radicalisées en mars dernier, 8250 aujourd'hui. Un chiffre plus important qui acte plus de radicalisation, mais aussi plus de surveillance et plus de signalements.
Oh ben notre petit Pierre, c'était quelqu'un de... On n'a jamais eu de soucis. Il était gentil, il était pas exigeant, il était modeste, il était discret, il était... C'était un petit oiseau, qui savait, comme je dis, qui savait pas voler. Puis eux, ils l'ont fait voler, quoi, sans aile.
Parmi les territoires les plus touchés, l'Île-de-France, le Nord, l'agglomération lyonnaise ou encore la Haute-Garonne, qui ont enregistré plus de 200 signalements depuis avril 2014. Si les personnes radicalisées sont en majorité des hommes et des majeurs, le phénomène touche de plus en plus de jeunes filles, attirées par un projet de vie chimérique.
L'organisation terroriste leur fait miroiter un véritable kit de vie, notamment avec des promesses de mariage avec des combattants rencontrés sur le web.
Bah lui, c'est fou. Je l'ai vu deux ou trois fois à des soirées, et un jour, je découvre sur Facebook qu'il est parti en Syrie, avec Omar, un autre gars du lycée. Un jour, ils sont ici, le lendemain, ils écrivent de là-bas. C'est tellement irréel que j'ai voulu le comprendre.
En fait, le déclencheur est dans 95% des cas liés à un contact humain, c'est-à-dire à la rencontre avec un intégriste, croisé à la sortie du lycée, au pied d'un immeuble ou encore dans une salle de sport. Ensuite, seulement, les réseaux sociaux peuvent prendre le relais.
Est-ce qu'il était beaucoup sur Internet?
Non, c'est pas le gamin qui était beaucoup, je dis, c'est un gamin, il a eu son premier portable en seconde. Et son premier ordi portable individuel, il l'a eu en fac, donc en septembre, et il est parti en octobre.
Ces individus jeunes qui sont signalés doivent faire l'objet d'un suivi. Nous devons aussi apprendre à mieux détecter les signes avant-coureurs de ces ruptures. Dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation, 2500 fonctionnaires de différents ministères sur tout le territoire ont d'ores et déjà été formés.
Il ne faut pas oublier que ces gosses, et encore je saute sur l'occasion pour avertir les autres, ces gosses, en se rendant dans ces pays en conflit armé, perdent tout. Au-delà de leur vie, ils perdent, je dirais, toute leur liberté. Toute leur liberté.
Il faut effectivement casser l'image d'héroïsme qui attribuait des héroïsmes négatifs, bien sûr, aux djihadistes et aux terroristes. Et c'est ça qui circule sur Internet, des images d'héroïsme.
Je ne pouvais plus vous supporter avec vos sales gueules de mécréants. Moi, je vais partir vivre dans la pureté du califat.
Chama, mais t'es malade ou quoi?
Non, c'est vous les malades.
Une ado qui se radicalise, ça n'arrive pas qu'aux autres. Extrait de Ne m'abandonne pas, téléfilm sur l'endoctrinement d'une jeune fille bien partie dans la vie, tout juste reçue à Sciences Po et qui s'apprête néanmoins à rejoindre les rangs de Daesh en Syrie à l'appel de son petit ami. Fiction réalisée par Xavier Duringer, diffusée mercredi soir. Gros succès d'audience, suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs avec une part d'audience de plus de 20%, plaçant France 2 loin devant TF1. Comme quoi le sujet intéresse, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est aussi ce que révèle le chiffre communiqué cette semaine de 8250 personnes signalées pour radicalisation par leur entourage ou par un service de l'État comme la police, l'éducation, via notamment la plateforme anti-djihad. Quel profil derrière ces chiffres, Bernard Godard? Vous les avez regardés de près?
Oui, alors pour il faut un peu préciser par rapport à ce chiffre que c'est ceux qui est reçu majoritairement par la plateforme, justement le numéro d'appel, le fameux numéro
stop
vert.
Stop djihadisme. Hein.
Voilà, stop djihadisme. Mais donc du coup, il y a quand même une bonne partie de ces appels qui ne sont pas, si vous voulez, qui ne correspondent pas à des départs ou des gens qui sont vraiment radicalisés. Mais comme c'est 50% de ces appels émanent des familles, ce sont des gens qui ont des inquiétudes par rapport au comportement de leurs enfants, par exemple. Et c'est en grande partie, par exemple, aussi des gens dont les enfants se sont convertis. Donc effectivement, ils ont des inquiétudes, ils ne correspondent pas à quoi ça, ils ne savent pas à quoi ça correspond, et pour eux, ça peut effectivement signifier le fait qu'ils vont tomber dans la radicalisation. Donc il faut être très prudent par rapport à ce chiffre-là pour voir effectivement. Ça ne veut pas dire 8250 qui sont susceptibles à un moment de partir en Syrie.
Il y a visiblement quand même dans ce chiffre aussi les personnes qui sont suivies par les services de l'État et notamment par les renseignements généraux.
Tout à fait.
Donc ces 8250 ne comprennent pas les signalements des familles qui auraient peur que leur enfant puisse suivre cette route-là.
Oui. Oui, mais enfin, les renseignements généraux n'existent plus depuis 2008. Hein, je vous dis.
Les services de renseignement,
c'est la DGSI, la Direction générale de la Sécurité intérieure. Non, mais c'est important parce que c'est devenu très, très plutôt fermé, quoi, ce genre d'information, de traitement. Et si vous voulez, parlons de ceux qui effectivement, donc qui sont nettement identifiés comme beaucoup plus radicalisés, c'est-à-dire qui versent beaucoup plus dans des possibilités de départ ou d'accomplissement du djihad. Des profils, on a longtemps effectivement essayé d'établir des profils types, et finalement, en fin de compte, on est arrivé, il y a certaines personnes qui s'occupent des radicalisations qui ont défini un certain nombre de modèles, d'autres qui ont défini d'autres, mais la conclusion finale, c'est que finalement, on a autant de modèles que de type psychologique, de type d'engagement politique, de type d'imprégnation religieuse. Vous savez, on a des gens, on a dit par exemple, il y a des gens qui ont lu le Coran pour les nuls juste avant de partir. Oui, mais il y en a en même temps qui avaient quand même une connaissance de leur propre religion. Donc vous voyez, il n'y a pas de modèle type.
Oui, Zaki, est-ce quand même parmi ces chiffres, 70% d'hommes et donc 30% de femmes, ça c'est une tendance qui vous surprend?
Alors, concernant les chiffres du numéro vert et des signalements, j'ai pas trop d'avis à donner puisqu'il y a eu un appel d'offres concernant ce numéro vert et ces signalements qui a été infructueux, paraît-il. Donc, on n'a pas vraiment d'état des lieux sur qui sont, justement.
Appel d'offres pour détailler
ces signalements. Les profils types de ces 8500 maintenant. Voilà. Après, on est dans un contexte particulier, depuis janvier, novembre 2015. Il y a eu des attentats, donc effectivement les signalements ont tendance à augmenter du fait des attentats. Donc après, qu'est-ce qu'une personne radicale aussi, c'est toute la complexité. Je suis d'accord avec Bernard Godard, il n'y a pas aujourd'hui de profil type. Les personnes que je rencontre, je les rencontre essentiellement en prison. Ce sont des personnes condamnées ou en mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. Beaucoup de retours de Syrie. Et ce qui me surprend particulièrement...
Prison d'hommes et prison de femmes vous concernant?
Essentiellement les hommes me concernant. Et ce qui me surprend depuis janvier 2015, c'est effectivement la diversité des profils. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. Certaines personnes sont parties en Syrie sans adhérer à l'idéologie. Ça, c'est un phénomène nouveau. Aux personnes dites radicales depuis les années 90, c'est vraiment le phénomène nouveau. Et puis effectivement, l'augmentation du nombre de femmes en partance vers la Syrie.
Vous venez de dire quand même quelque chose d'important à relever, Wizakias, à propos de cet appel d'offres qui n'aurait pas été suivi ou auquel aucune suite n'aurait été donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, ces données, ces statistiques, c'est encore très difficile pour vous, chercheurs, à établir ou même à obtenir. Parce que quoi? Parce que les pouvoirs publics ne communiquent pas dessus? C'est trop sensible ou tout simplement parce qu'elles n'existent pas, ces données?
Alors,
qu'elles sont très diffuses.
C'est un peu tout à la fois. Je crois que pendant des années, effectivement, pour un chercheur, c'était compliqué d'avoir accès à des données. Mais depuis janvier 2015, c'est vrai que les institutions publiques, quand même, que ce soit l'UCLAT, la DGSI, etc., travaillent, essaient de travailler quand même avec des partenaires extérieurs, notamment des chercheurs, pour essayer d'avoir un état des lieux des profils. Ça a été infructueux, peut-être parce qu'il n'y a pas eu une bonne réponse à cet appel d'offres. Voilà. Mais en tout cas, il y a des tentatives des institutions publiques à ce niveau-là.
L'UCLAT, c'est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Avec nous également, donc, par téléphone, Azim El Difraoui. On l'a entendu, il y a aussi tout ce simple chiffre de 8250 personnes signalées ne dit pas, à savoir la progression réelle, le degré de radicalisation des personnes signalées, une sociologie précise des radicalisés, ou encore, comme le souligne Pierre Conessa, autre chercheur, l'impact de l'intervention militaire en Syrie ou celui des attentats sur ce basculement. Enfin, c'est le chiffre des personnes suivies, celui des personnes impliquées, et quatre fois moindre, tempère le ministère de l'Intérieur. Quelle tendance, cette tendance néanmoins, qu'est-ce qu'elle vous inspire, Azim El Difraoui?
Moi, je vois encore pas encore de tendance dans ces chiffres communiqués. Je trouve ce chiffre extrêmement problématique pour des raisons déjà évoquées, mais aussi pour le fait qu'il n'y a pas de bonne définition. Qu'est-ce que ça veut dire radicaliser? Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui vient peut-être salafiste rompt avec la société ou se met à la marge de la société, ou est-ce que c'est des gens qui deviennent réellement violents? Et un deuxième problème avec tous ces chiffres communiqués, qui est le fait que peut-être on passe à côté de quelque chose, c'est-à-dire là on a un chiffre énorme parce que des parents inquiets, parce que des voisins inquiets, parce que des instituteurs inquiets appellent le numéro de vert. Mais combien de personnes n'appellent pas le numéro vert, parce que le numéro vert, c'est un numéro géré par l'État, par le service de sécurité, et combien de gens appellent pas parce qu'ils ont peur de stigmatiser un élève, de stigmatiser un jeune? Donc, ces chiffres...
Il y a un côté dénonciation quand même, hein.
Oui, clairement, mais ces chiffres ne disent strictement rien. Parce que déjà, il n'y a pas la base. Qu'est-ce que ça veut dire radicaliser? Deuxièmement, quelles sont ces choses détaillées? Ensuite...
Juste une précision, Azim, c'est aussi ce qui a fait qu'un programme un peu similaire de numéro vert a tourné court en Allemagne, le programme ATIF, hein, qui était un programme de signalement allemand et de prise en charge qui était dirigé par les services de sécurité, hein.
Oui, mais les Allemands, ensuite, ils ont vraiment fait appel à des organismes indépendants, donc de la société civile, qui étaient aperçus comme beaucoup plus neutres, pour que les gens puissent signaler. Donc, ils ont fait la découverte qu'il y a beaucoup plus de gens qui signalent à des organismes et à des associations, à la société civile, qui ont au fait, quand il y a un risque de sécurité, alerte le service d'État, que si les gens appellent directement l'État. Mais j'ai un autre point qui me semble important, ces appels d'offres, c'est-à-dire... il y a certains services qui font un appel d'offres pour que le chercheur réponde et font un travail un peu plus détaillé sur le profil des gens éventuellement radicalisés. Mais après moi, il y a un réel problème de com. C'est-à-dire qu'il y a de milliers de personnes en France, de chercheurs de différents domaines qui s'intéressent à ce genre de recherche, mais apparemment, ça n'atteint pas le public cible. Et ce qu'il manque deuxièmement, c'est vraiment le grand débat du public. Qu'est-ce que ça veut dire déjà radicaliser? Dans ces débats, il n'est pas mené. Il y a aussi un manque dans le grand débat. Qu'est-ce que ça veut dire déradicaliser?
Alors pour notre émission, on va suivre votre effort de définition, Azim, je vous emprunte vos mots. La radicalisation est définie comme le processus qui conduit un individu à rompre avec la société dans laquelle il vit pour se tourner vers une idéologie violente, en l'occurrence le djihadisme. Et au contraire, la déradicalisation vise à défaire le processus de radicalisation et à encourager la réintégration des individus concernés dans la société. Sans vouloir justement...
Je voudrais apporter une précision qui me semble importante. Donc, la déradicalisation, c'est certainement pas l'inversion de la radicalisation, c'est amener un jeune vers une autre trajectoire. Donc, c'est pas simplement de défaire, c'est vraiment d'offrir d'autres possibilités et changer la trajectoire de la vie de cette jeune.
Forme de réengagement et de réintégration. Hein. Bernard Godard, sans vouloir jouer à pile ou face, est-ce qu'à trop vouloir déradicaliser, quelque part, on n'a pas négligé la prévention de la radicalisation?
Alors, la prévention de la radicalisation n'est pas encore quelque chose qui est complètement accepté ou du moins construit, où il n'y a pas de doctrine en la matière. si vous voulez, bon, dans les autres pays européens, effectivement, la prévention, mais de la délinquance en général, pas forcément de la radicalisation, c'est un phénomène qu'on connaît et qui est rodé, etc. Mais en France, c'est vrai que le phénomène de prévention en lui-même, c'est quelque chose qui entraîne la méfiance. Hein. Vous avez bien vu l'excuse, l'explication. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est donc du
ça,
coup.
Vous faites référence au mot de Manuel Valls pour voilà. Qui expliquer, c'est déjà en partie excusé.
Mais bon,
il l'avait à peu près défini.
C'est pas, il n'est pas le seul à penser ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une méfiance par rapport au processus de prévention en général. Donc, du coup, à plus forte raison sur la radicalisation. Mais ce qui complique le processus dans le cas de la prévention de la radicalisation, c'est qu'on a deux très éléments, et en particulier l'élément religieux. Et là, effectivement, on est en face de quelque chose de très compliqué, puisque toutes les institutions, hein, que ce soit l'éducation nationale ou d'autres institutions, sont toujours réticentes quand vous leur dites que, effectivement, de rentrer dans un processus de prévention, quel qu'il soit, dès que vous leur dites, mais écoutez, il y a un phénomène religieux que vous devez prendre en compte, etc. Là, il y a une espèce de peur, d'angoisse. Le phénomène religieux, c'est quelque chose qu'on ne veut pas prendre en compte. Et je crois que c'est ça qui crée en France un vrai problème, une vraie complication. C'est le fait que ce soit une prévention d'un phénomène qui implique l'introduction de paramètres qui est le paramètre religieux.
Alors, il y a eu justement un papier, une contribution d'un anthropologue franco-américain, Scott Atran, qui a été publié cette semaine sur l'Obs, l'Obs.com. Il est très critique, hein, ce chercheur, sur la réaction notamment du gouvernement français post-attentat et surtout sur les silences, hein, de la politique française. Je cite, il dit notamment que le gouvernement français a fait l'autruche sur la crise morale qui frappe la jeunesse française, sur la fatigue de la démocratie et des valeurs libérales, sur la coupure entre les dirigeants et ces jeunes. On se borne en France à parler de problèmes d'immigration, d'intégration, d'héritage colonial, mais le problème va en réalité bien au-delà. Wizakies, est-ce que, on l'entend, hein, le problème n'est pas nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? On a sous-estimé cette question, ce phénomène notamment de radicalisation, d'attirance pour une idéologie radicale? Est-ce qu'on a voulu nous le cacher? Est-ce que les autorités n'ont pas su voir venir, ou est-ce qu'elles n'ont pas voulu voir venir?
C'est peut-être un peu tout en même temps. Je crois qu'il y a un décalage monstrueux, je dirais vraiment le terme, c'est monstrueux, entre les élites qui nous gouvernent et la réalité du terrain. Cette déconnexion entre les administrations publiques, hein, que ce soit l'institution scolaire, l'institution de l'administration pénitentiaire ou toute autre administration publique, entre ceux qui dirigent ces institutions et les professionnels, les praticiens de terrain. Et c'est vrai que c'est un phénomène très ancien, effectivement, la radicalisation, ce processus de radicalisation est aujourd'hui, avec la crise syrienne, assez exceptionnelle, mais en même temps, c'est un phénomène très ancien. C'est-à-dire l'utilisation de la violence comme seul moyen d'expression de cette jeunesse-là, quelle que soit aujourd'hui la classe sociale de ces jeunes, c'est un phénomène qui est dans nos quartiers et depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années. Donc, je ne sais pas si les politiques n'ont pas voulu voir venir. Je sais simplement qu'on attend souvent les attentats, qu'on instrumentalise aussi des événements aussi graves que les attentats de janvier ou de novembre pour prendre des décisions sans prendre le temps de réfléchir et d'expliquer qu'il va y avoir énormément d'argent pendant 3 ans pour faire de la prévention de la radicalisation, pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est à la fois très compliqué parce que ça donne envie à certains de se lancer dans ce qu'on appelle le business de la radicalisation. C'est aussi la réalité depuis janvier 2015. On a différentes structures, différents pseudo-experts qui essaient de travailler sur cette question-là. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut absolument soulever. J'en profite.
Azim Eldifraoui, à l'instant, Bernard Godard évoquait ce tabou religieux en France. Clin d'œil aussi à l'ouvrage de Jean Birnbaum, Un silence religieux, qui montre effectivement du doigt, quelque part, la difficile relation entre la gauche française et cette question du religieux et notamment de l'islam. Si on regarde chez nos voisins, l'Angleterre a mis en place des mesures de prévention après les attentats de 2005. Au Danemark et en Allemagne aussi, des programmes similaires existent, introduits pour l'Allemagne dès 2003 dans la foulée du 11 septembre. En France, il a fallu pratiquement vraiment attendre 2014 pour que les jalons soient posés, notamment avec cette plateforme Stop Djihadisme. Pourquoi est-ce qu'on accuse, selon vous, même question, un tel retard au démarrage?
Donc déjà, l'antiterrorisme en France, ça a trop bien marché. Il ne faut jamais oublier que la France était le premier pays européen qui était en 1994 déjà frappé par les attentats djihadistes, notamment l'enlèvement de l'Airbus sur le tarmac d'Alger qui s'est terminé à Marseille. Ensuite, il advient les attentats du métro Saint-Michel Et jusqu'à Mohamed Merah, rien. Tout était déjoué. Donc la France, elle pensait que la stratégie classique de contre-terrorisme marcherait et marcherait pour toujours. Ensuite advient la première série des attentats, le départ en Syrie, et là, les gens commencent à réfléchir, on change de paradigme, on dit que c'est pas uniquement une politique tout sécuritaire, ou en partie, ou une remède socio-économique qui va suffire. Mais depuis, les choses vont trop lentement, et dans une opacité totale. Et avec une frilosité politique énorme. Bernard Godard vient de soulever l'aspect religieux. Mais l'aspect religieux, on peut le contourner. On peut parler d'une quête de sens. On peut réfuter le djihadisme comme idéologie, parce que le djihadisme actuellement est vraiment à la marge de l'islam. Donc il y a tout un argumentaire à faire. Mais il y a une frilosité politique qui est énorme. Par exemple, les gens qui gèrent ça au quotidien, ce sont souvent des préfets, des gens qui gèrent des commissions interministérielles. Mais il n'y a pas, par exemple, un politique qui est directement impliqué dans la prévention et la déradicalisation. Et pourtant, pour prendre des choix très difficiles, et on va être confronté à des choix stratégiques très difficiles au niveau de la prévention et la déradicalisation, c'est vraiment des politiques qui doivent ouvertement gérer ça, pas déléguer ça à des préfets comme Fusible, qui à toute façon pensent plutôt à leur propre carrière et sont extrêmement prudents.
En même temps, c'est une question transversale. Vous dites qu'il faudrait presque un ministre à la déradicalisation ou un secrétaire d'État, mais on le voit notamment à travers les lieux de l'endoctrinement que beaucoup de ministères sont concernés aujourd'hui, celui de la famille, le ministère de l'Intérieur, évidemment le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères et de la Défense avec les actions qui peuvent être menées à l'extérieur. On sent que c'est quand même, le champ est très large dans cette lutte qui est engagée quelque part.
Moi, je disais pas qu'il faut faire un ministère pour la prévention et la déradicalisation. Mais il y a par exemple des exemples d'autres pays européens. En Norvège, il y a une jeune femme qui est secrétaire d'État, qui a des compétences considérables, parce qu'elle a travaillé déjà en Afghanistan, au Pakistan, elle est même d'origine moitié pakistanaise, qui s'occupe de l'intégration, de la prévention en même temps. Et la lutte contre les extrémismes. Donc, moi, je demande qu'on réfléchisse à de nouvelles approches.
Alors, qu'attend-on, Bernard Godard, notamment, pour mettre les bouchées doubles?
Qu'attend-on, c'est-à-dire, précisément, de qui voulait parler des pouvoirs publics?
On vient de constater qu'on avait accusé un certain retard sur la prise de conscience. Il y a encore récemment le ministre des Sports qui a dit on est peut-être passé à côté de certaines choses. Ok, prise de conscience. Maintenant, est-ce que, pour vous, aujourd'hui, tout est fait pour prévenir la radicalisation et puis, autre volet, on l'évoquait, pour déradicaliser, réintégrer les jeunes qui seraient, par exemple, de retour en Syrie, de Syrie.
Par exemple, par rapport à l'action publique, techniquement, la première circulaire qui a été émise, c'était en 2014. En direction des préfets, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une décentralisation immédiate de l'action publique par rapport à cette prévention. Donc on a un peu laissé, si vous voulez, les préfets un petit peu sans éléments doctrinaux précis, bon, pas de grande doctrine, bien sûr, mais du coup, chacun a un peu bricolé dans son coin sa propre formule de déradicalisation. Donc quelque part, il n'y a pas eu une vraie coordination, si vous voulez, pour essayer de penser la question au niveau national, d'un point de vue théorique, mais En matière pratique. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous venez de citer plusieurs ministères qui s'engagent dans ce processus et dans le fond, on se demande à un moment, mais qui est le chef d'orchestre? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un préfet qui est tout à fait, qui fait son travail, qui est chargé de la coordination de toutes ces actions, mais c'est une coordination souple, légère, avec peu de personnel, mais on n'a pas quand même quelque chose à l'impareil, si vous voulez, qui essaye de retirer l'expérience. Les retours d'expérience de tout ce qui a été fait depuis plus d'un an par ces différentes cellules qui se sont montés en Alsace, dans le Nord, à Nice, à Toulouse. Bon, est-ce qu'il faut, je crois qu'il faut procéder aujourd'hui à une vraie analyse, à une vraie recension et voir un petit peu les expériences qui marchent, qui ne marchent pas et savoir effectivement s'il faut dire à un moment donné cette action publique, ça ne va pas, il va falloir qu'on change peut-être de régime, il va falloir qu'on pense peut-être à une autre procédure. Rien que ça, c'est déjà le début de l'action.
Alors de ce qui a été fait ou va être fait, Bernard Godard, on se souvient de Manuel Valls annonçant, après les attentats du 13 novembre, l'ouverture au printemps de centres de déradicalisation, dits de réinsertion et de citoyenneté, où la religion d'ailleurs n'aurait pas sa place, on imagine que vous le déplorez, mais comme en prison, est-ce qu'on doit se dire que de l'isolement naîtra aussi la concentration des radicalisés, que ça, c'est un risque à prendre, cette idée d'isoler, mais qui en même temps implique une concentration des personnes à risque. Est-ce que pour vous, c'est un risque à prendre ?
Bon, tout, je n'ai même pas besoin de le penser moi-même. C'est-à-dire que la plupart des experts sont tombés d'accord sur le fait qu'à un moment donné, si vous rassemblez les gens, comme on a une imprécision pour savoir quel est le degré de radicalisation des gens qui sont impliqués, si vous les mettez tous en même temps, ceux qui sont faiblement radicalisés, bah, ils seront forcément attirés par ceux qui sont plus fortement radicalisés. Donc du coup, il y a un risque, si vous voulez, de concentration dans un même endroit de gens, c'est à la seule condition, mais il faudrait mettre des conditions draconiennes pour isoler les gens les uns par rapport aux autres, mais c'est très lourd. Mais il y a un risque quand même important qui est une pollution, j'ai envie de dire, de ceux qui sont le plus radicalisés par rapport à ceux qui le sont moins.
Donc quoi, ces centres, Azim El Difraoui, sont une fausse bonne idée ?
Sont une fausse bonne idée, mais on a averti le pouvoir public sur ça, à savoir, il n'y a aucun européen qui le fait, ils font du mentorat. C'est juste dans le monde arabe, à l'Arabie Saoudite, qui fait ce genre de tension pour des djihadistes avec des moyens énormes, et même eux, ils ont un taux d'échec qui est inquiétant. Donc eux, ils intègrent même la variable religieuse, ils arrivent à faire un contre-discours religieux avec de grands ulémas, avec de grands savants wahhabites pour contrer l'idéologie djihadiste, et même eux ont un taux d'échec qui fait peur. Donc, il me semble que c'est une fausse bonne idée qu'il faut vraiment réfléchir. C'est peut-être aussi une question de moyens que l'État veut mettre à la disposition pour la déradicalisation dans le milieu fermé, parce qu'en effet, ou semi-fermé, parce que ça coûte beaucoup moins cher de concentrer tout le monde au niveau de la surveillance et tout ça. Mais est-ce qu'on va pas avoir un retour de bâton qui est extrêmement dangereux ?
La question se pose également en prison, hein, où Isaac Kies, le 25 janvier dernier, l'administration pénitentiaire a mis en place ses premières unités dédiées qui visent à lutter, là encore, contre la radicalisation en prison. Unité expérimentée à Oni, en région parisienne, où vous travaillez, Isaac Kies, bientôt ouverte aussi à Fleury, si je ne m'abuse. En quoi ça consiste ces unités ?
Alors, je voudrais répondre sur les futurs centres qui vont être créés, deux centres de réinsertion et de citoyenneté. Moi, je ne pense pas que ce soit une fausse bonne idée. Là, pour une fois, j'avoue que c'est une très bonne idée de créer des centres pour les retours de Syrie, puisque les objectifs de départ ne sont pas du tout les mêmes selon que certains jeunes soient partis en 2013 ou qu'ils soient partis en 2014. Donc, l'idée du gouvernement de créer, même si l'idée a été annoncée trop tardivement, cela n'empêche pas que c'est une très bonne idée, effectivement. Effectivement, avec la question du fait religieux qui va être abordée, contrairement à vos propos, hein, la question du fait religieux sera abordée dans ces centres. Première chose.
C'est pas ce que déclarait récemment le préfet à la coordination, hein, sur ces questions, mais tant mieux, donc peut-être visiblement.
La question du fait religieux, j'en suis même persuadée, sera abordée effectivement. Maintenant, le contenu pédagogique est encore en discussion, mais la question du fait religieux ne peut pas ne pas être abordée. Maintenant, quand on parle de déradicalisation, c'est important de signaler qu'on est dans aucun contre-discours. Et là, je ne parle pas uniquement dans le centre de retour de Syrie ou de réinsertion et de citoyenneté. La question de la déradicalisation, c'est vraiment ne pas convaincre ces jeunes. C'est pas essayer de leur faire un lavage de cerveau ou essayer de les faire penser comme il faut, normalement. C'est plutôt les faire réfléchir. Voilà, c'est cette capacité de les amener à réfléchir et à se questionner qui n'arrive plus effectivement à leur retour en général. Premièrement. Deuxièmement, concernant les prisons, c'est la première institution publique qui a essayé de comprendre le phénomène avant d'essayer de prévenir le phénomène de radicalisation. Dès 2009, l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire a fait appel à des chercheurs pour comprendre le phénomène. C'est la seule, à ma connaissance, institution publique qui a essayé de comprendre le phénomène. Ensuite, il y a eu un appel d'offres en octobre 2014, donc avant les événements de janvier,
les
attentats de janvier 2015. Avec mon équipe, on a répondu, on a gagné l'appel d'offres, on a commencé le travail quelques semaines après les attentats de janvier 2015. Il s'agissait dans cet appel d'offres de réactualiser une grille de détection utilisée par les officiers de renseignement et puis d'expérimenter un programme de prise en charge de détenus ciblés radicalisés, donc des retours de Syrie éventuellement, enfin voilà, et travailler avec tous les détenus de la détention. Sauf qu'il y a les attentats, effectivement, de janvier 2015, et là, on ne fait plus du tout attention à des années de travail de chercheurs, d'études, qui considérant qu'il fallait faire des choses effectivement, parce qu'il y a des attentats, on essaye de développer les unités dédiées, qui étaient encore en expérimentation. On n'avait pas de retour d'expérience du quartier dédié dans la prison de Fresnes dans le 94. Et suite aux attentats, on décide de développer, le gouvernement décide de développer ces unités dédiées avec tout ce qu'a expliqué Bernard Godard, les limites de rassembler effectivement les mêmes profils, les mêmes visions du monde, comment un individu peut ressortir d'un groupe. L'autocontrôle du groupe est extrêmement important. Voilà, donc si vous voulez, toute l'expérience de 2015 qu'on a essayé de mener, qui n'était pas du tout en direction des unités dédiées, a été complètement mis dans un tiroir, alors que les unités dédiées viennent juste simplement d'être créées. Donc c'est la complexité, si vous voulez, entre un travail sur des années et puis les politiques qui décident, suite à des événements graves, de prendre des décisions sans aucune réflexion.
Qui agissent sous le coup de l'émotion. Mais alors ces unités dédiées, en quoi sont-elles, entre guillemets, perverses d'après vous? En quoi ne répondent-elles
au problème? Il faut expérimenter. Je suis ouverte à l'expérimentation. Il n'y a pas suffisamment de retour aujourd'hui. Même s'il y a plus d'un an, il y a eu un quartier dédié à Fresnes, on n'a absolument aucun retour. La difficulté de rassembler... Alors, la sélection doit être très très fine, parce que ce que je disais tout à l'heure, et les hypothèses qu'on peut avoir et que partagent d'autres chercheurs avec moi, c'est effectivement le fait que ça peut renforcer justement l'idéologie au sein du groupe. On l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu aussi dans d'autres mouvances radicales, comment rassembler des individus qui ont à peu près la même idéologie, c'est renforcer leur propre idéologie, c'est le risque.
Contrairement à une idée reçue, qui fait d'Internet un coupable idéal, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste souligne, en publiant ces chiffres de 8250 personnes radicalisées, signalisées comme telles en tout cas, que l'élément déclencheur est dans 95% des cas lié à un contact humain. Bernard Godard, vous avez beaucoup travaillé sur l'organisation de l'islam en France, et notamment sur les divisions, la fragmentation de la communauté musulmane en divers courants, divers chapelles aussi. Il y a eu une idée qui revient assez régulièrement dans la bouche de nos responsables politiques, celle de fermer les mosquées salafistes ou encore d'expulser des imams considérés comme radicaux. Les mosquées pouvant être un lieu d'endoctrinement, d'embrigadement. Et est-ce que ça, c'est une des solutions possibles? Est-ce que c'est une réaction politique qui vous semble à la hauteur des enjeux?
Il faut revenir un petit peu à ce que vous aviez évoqué, qui était le mot radicalisation. Radicalisation, ça ne veut pas dire radical. Alors, je sais que c'est... Eh oui, mais c'est fondamental, parce que si vous voulez, si vous décidez que est susceptible de conduire à la radicalisation, c'est-à-dire le passage à l'acte violent, le fait de venir et d'avoir une pratique fondamentaliste, littéraliste de la religion... Là, effectivement, il faut fermer 90 mosquées. Il faut, non, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez, et qui est assez impossible, parce que effectivement, les pires ennemis, si vous voulez, de la radicalisation du djihadisme, ce sont justement ces salafistes ordinaires, je vais pas leur défendre, mais qui, effectivement, sentent très bien que le danger maximum pour eux, c'est effectivement ces djihadistes. Donc, vous voyez, mais en même temps, vous avez raison, c'est vrai que, même si eux prétendent, ils le sont. Ils sont quiétistes, effectivement. Ils reconnaissent que le djihad doit être ordonné à un moment donné, ou même, c'est l'Arabie Saoudite qui est leur référence suprême. On est d'accord. Mais ces lieux-là, effectivement, il faut reconnaître qu'ils sont quand même en priorité ceux-là où on peut se retrouver. Mais ensuite, c'est des cellules. C'est un phénomène de cellules. Et on voit toujours les mêmes phénomènes, que ce soit à Strasbourg, à Lunel et ailleurs, avec un ou deux leaders qui ensuite entraînent tout un groupe, le groupe de copains, etc. On connaît un petit peu comment se forgent à peu près ces réseaux. Et vous ne pouvez pas dire à un moment que c'est une mosquée salafiste qui a été à l'origine. Vous voyez, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, décider de fermer toutes les mosquées salafistes, et il y en a quand même presque une centaine en France, c'est quand même prendre la responsabilité de déclarer l'interprétation radicale de l'islam comme étant, bon, pour certains le disent, un phénomène sectaire, et de traiter effectivement cette partie d'expression qui est effectivement pas très sympathique de l'islam radical comme étant un danger. Le danger, c'est d'ailleurs la matrice de la future radicalisation. Moi, je pense que c'est dangereux d'aller dans ce sens-là.
des lieux, venons-en aux mots, si vous le voulez bien, de l'endoctrinement par l'image à la déradicalisation par la publicité, discours contre contre-discours. C'est à suivre tout de suite dans Dimanche et après.
France Culture, Dimanche et après. Olivia Gesbert.
Et si la Colombie était en avance sur nous ? Et si la stratégie mise en place pour désarmer les guérillas là-bas pouvait nous aider à mieux réagir aux groupes extrémistes ici ? Et si la communication, terrible arme de guerre, pouvait devenir un formidable outil de paix ?
Extrait de votre documentaire, Flore Vasseur, bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes partie en Colombie filmer une expérience de démobilisation des combattants des FARC par la publicité. Expérience développée par José Miguel Sokolov et sa clique de publicitaires à la demande du gouvernement de Bogota. On connaît le pouvoir d'aliénation des images, de la publicité, vous le rappelez d'ailleurs. L'idée là est de s'en servir pour ramener au bercail des agneaux égarés dans la jungle colombienne, une forme de contre-propagande totalement assumée. Hein.
Totalement assumée, c'est effectivement le ministre de la Défense de l'époque, il y a 8 ans, qui a eu l'idée, face à une cinquantaine d'années d'impasse, hein, le conflit FARC, c'est 50 ans de guérilla, donc je veux dire, ils sont extrêmement au fait de l'emprise que peut représenter la guerre, le conflit sur une jeunesse totalement à l'abandon, et donc ils ont essayé beaucoup de choses, et la communication est venue. Est devenue une stratégie militaire totalement assumée et qui a des effets très positifs, il faut le constater, sur le moral des troupes, mais aussi sur la façon dont la société perçoit les FARC et le conflit FARC. Parce que vous avez mentionné quelque chose de très important qui était sur ces entreprises de déradicalisation, c'était les programmes de réintégration, de réinsertion. Et ça, c'est très très lié effectivement à ce que l'État met en place, mais c'est surtout très lié au regard que la société porte sur cette jeunesse qui un jour a été séduite par ces projets de vie-là. Parce que ce qui est commun avec ce qui nous touche en France, c'est que le conflit FARC, rentrer dans le conflit pour une jeunesse, c'était une ascension sociale.
Alors après une première campagne axée sur la culpabilisation qui a été un échec total, vous le racontez, José Miguel Sokolov et ses collaborateurs ont changé leur fusil d'épaule et choisi de positiver ces appels au retour. Ça a donné des sapins de Noël dans la jungle car ils se sont rendus compte que la période des fêtes était plutôt propice à la nostalgie des familles. Puis une campagne d'affichage avec des photos de guerrieros quand ils étaient enfants, la voix des mères mise à contribution et ce slogan « Avant d'être un guerriero, tu étais mon fils, ce Noël je t'attends à la maison ». Ça, c'est un peu la méthode d'Ounia Bouzard en France, qui assimile, pour mémoire, hein, la radicalisation islamique aux dérives sectaires. Elle veut toujours rappeler les moments heureux de l'enfance en impliquant les parents, faire passer l'affect avant la raison. Mais pour revenir à la Colombie, cette démobilisation n'est qu'une étape. Une fois rentrés, les services de l'État prennent le relais avec des programmes de réintégration depuis 2002 qui mêlent du social, une aide psychologique, économique ou encore juridique pour aider ces anciens combattants à retrouver une place dans la société. Cette méthode de déradicalisation par l'image a d'ores et déjà été transposée dans d'autres pays. Serait-elle efficace en France contre l'attrait exercé par Daesh ? C'est évidemment la question que vous avez eu envie de poser à Sokolov.
Ils veulent être les pires des pires. Ils disent « on est des super méchants ». C'est un peu la façon dont fonctionnent les gangs. La première chose à faire serait de prouver qu'ils essaient d'être terribles, mais qu'en fait, ils sont super stupides. Qu'ils ne sont pas les plus méchants des plus méchants. Je pense que ça découragerait un grand nombre de rejoindre l'ISIS et qu'ils se diraient « Pourquoi rejoindre un mouvement stupide ?» Je pense qu'on réagit en disant « Ils sont mauvais et il faut les tuer ». Non, il faut leur faire se rendre compte de leur bêtise. Je crois que le monde peut s'en moquer et les ridiculiser.
Oui, Zakiès, Bernard Godard, dénigrer, voire ridiculiser l'adversaire, est-ce que ça vous semble être une bonne tactique, une bonne stratégie ?
Ridiculiser l'adversaire, vous lire ?
Oui, c'est ce qu'évoque à l'instant M. Sokolov, hein, l'idée qu'il faut les tourner un peu en ridicule.
Non, ça pour le moment, je ne crois pas que ce soit ce qui marche. Non pas qu'il ne soit pas ridicule, là n'est pas la question. Mais si vous voulez, le pouvoir d'attraction, l'idéologie ou le courant de l'islam qu'il prétend représenter, c'est quand même une image assez forte. Donc du coup, on n'est pas dans l'idéologie. Toutefois, c'est ça qui est intéressant par rapport à la comparaison avec les FARC. Les FARC, on est avec une idéologie. Donc on peut, si vous voulez, démonter, j'ai envie de dire, plus facilement. Enfin, c'est pas facile, mais bon, on va dire... Tandis que là, on est devant quelque chose qui est sur une transcendance. C'est-à-dire qu'on invoque une transcendance. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est vrai que quand vous lisez, par exemple, la revue d'Abik du Daesh, ou vous voulez le dernier propos, le Dar al-Islam, qui est leur revue en français, c'est vrai qu'il y a des moments, pour quelqu'un qui n'est pas impliqué, vous vous dites, il y a des côtés presque ridicules. Mais ça fonctionne pas comme ça pour celui qui le regarde. Vous voyez. Pour le moment, on n'est pas encore au stade, je ne sais pas, peut-être à l'avenir, on n'est pas au stade où on peut ridiculiser. Je pense que ça ne fonctionne pas, le ridicule, par rapport à la représentation de ces martyrs, de tout cette image meurtrière, je pense pas.
Pour l'instant, la France a quand même produit des campagnes de prévention qui fait aussi témoigner les pères ou les mères d'enfants partis faire le djihad. Dernière campagne en date de la plateforme Stop Djihadisme, c'est une vidéo où on voit des pages des réseaux sociaux qui appellent à venir combattre aux côtés de l'État islamique et des images de propagande avec en texte les promesses d'une vie meilleure qui sont opposées à la réalité. Je sais pas si vous voyez ces messages. Il est écrit « Ils te disent, viens fonder une famille avec un de nos héros. En réalité, tu élèveras tes enfants dans la guerre et la terreur. » Ça, c'est un exemple de message qui est délivré par cette plateforme gouvernementale Stop Djihadisme en France. Ça vous semble être un écho possible à ce que vous avez vu en Colombie ?
Oui, un écho. Je pense que vraiment la communication, c'est la construction de mythes ou de représentations. Et qu'aujourd'hui, on est face à un mouvement, cette radicalisation, qui propose des représentations et des mythes. Donc, cette communication, elle peut venir démonter ces mythes. Donc, montrer que c'est stupide, c'est une des manières de le faire. Montrer que c'est pas vrai, c'est une autre. C'est ce que la dernière campagne qui vient d'être faite, c'est une autre manière de le faire. Montrer que ce n'est pas la vraie vie, c'est autre chose. C'est ce qu'ils essayent de faire avec leur maman, avec la mobilisation de la société civile. Mais si vous voulez, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que là, on a un système de représentation contre un autre système de représentation. Il me semble que c'est quelque chose qui est pertinent aujourd'hui, puisque tout passe par l'image et par la fascination ou la peur que cela peut susciter.
Azim El Difraoui, le mot de la fin, la publicité comme arme de démobilisation massive, vous y croyez ?
Oui, je crois. Donc, il faudrait vraiment analyser le facteur de la radicalisation. Ce chiffre de 80% radicalisés et 95% radicalisés par des contacts physiques me semble encore complètement opaque. Tous les chercheurs en Europe ont découvert que la radicalisation a plusieurs variables, donc notamment aussi l'exposition à l'image, des contacts personnels, même des livres. Donc il faut analyser vraiment scientifiquement la cause de la radicalisation pour le défaire. Et les images sont une arme très importante. Sinon, Daesh n'utilisera pas cette force d'image horrible contre nous. Donc il faut mettre quelque chose en face. Et il n'y a pas de solution miracle. Le plus de choses qu'on met en face, soit ça les ridicule, soit c'est vraiment de réfuter leur thèse, leur concept volé à l'islam, leur non-proposition d'une vie meilleure, leur mythe de salut mensongère. Donc il n'y a pas une seule recette. Donc c'est pour ça qu'on doit discuter ouvertement en France, en Europe, toutes les recettes possibles pour défaire cette idéologie complètement dangereuse et si menaçante pour la cohésion de notre société.
Et la semaine prochaine, justement, Frédéric Martel, de retour de Jordanie, vous parlera d'une émission qui s'appelle le Al-Bashir Show, qui est diffusée sur YouTube, où des Irakiens de Jordanie aujourd'hui se moquent par l'absurde de l'État islamique. Il vous racontera la puissance de ces vidéos et l'impact qu'elles peuvent avoir sur le jeune public. À noter que face à la critique sur son rôle supposé dans la radicalisation en ligne, le moteur de recherche Google, ne parvenant pas à filtrer en temps réel les milliers de vidéos mises en ligne appelant au djihad ou faisant l'apologie du terrorisme, ni à bloquer d'ailleurs toutes les suggestions de recherche possibles en la matière, Google a annoncé cette semaine vouloir promouvoir un contre-discours en offrant des espaces publicitaires aux associations ou aux ONG qui luttent contre l'endoctrinement. Voilà une expérience qui mobilise les géants du net. Un documentaire, celui que vous avez réalisé, Flore Vasseur, produit par Zadig, il sera diffusé sur Arte le 1er mars. Il faut attendre donc 3 semaines dans le cadre des Square TED Story. Merci beaucoup à tous. Ce soir au micro, il y avait Oubiza Kies, Bernard Godard et Azimel Difraoui. Merci à vous également, Flore Vasseur. À la réalisation, David Jacques Boviez, avec Alex Dang, à la préparation et sur le fil des réseaux sociaux, Mathias Mégy. Dimanche et après, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'émission est podcastable, sans fin et jusqu'à plus fin, sur franceculture.fr. À dimanche prochain.